Petit philosophe dans le vaste monde. Une émission proposée par Bernard Ribal. Bernard Ribal, essayiste, agrégé et docteur en philosophie.
Il y a quelques jours, le président Trump, dans une conférence de presse, conseillait aux Américains de prendre le soleil et d'absorber des désinfectants pour se prémunir du Covid-19. Alors, même s'il s'est rétracté un peu après, n'est-ce pas le comble de l'irresponsabilité pour un chef d'État de laisser entendre de pareils conseils médicaux à un peuple déjà en désarroi? Il aurait des excuses. Surmenage, gros souci, mais on a toujours des excuses en cherchant bien. À la limite, y a-t-il des cas où je puis être sûr d'avoir été libre et pleinement responsable? L'anthropologie contemporaine, comme celle de Michel Foucault, 1926-1984, confirme notre aliénation. Aliénation au déterminisme génétique, éducatif, ethnique, œdipien, linguistique, socio-économiques, hormonaux, neuronaux, circonstanciels, etc. Les sciences du XXIe siècle donnent raison à Spinoza, qui est, lui, du XVIIe siècle. L'homme se croit libre, mais comme un alcoolique sous l'emprise de l'ivresse, il vit dans l'illusion de se conduire librement. Nous serions le jouet de causes diverses que nous n'avons pas choisi. Pourtant, fort heureusement, quand j'ai affaire à quelqu'un, au quotidien, je ne me dis pas qu'il parle et agit en fonction de son complexe d'Œdipe qui brouillerait ses repères. Je le considère comme l'auteur responsable de ses actes et de ses paroles. Sinon, ce serait invivable. Nos relations ordinaires deviendraient confusément médicalisées, déshumanisées, indiscrètes, voire indécentes, dans des dialogues improbables. Et réciproquement, quels que soient mes déterminismes, les autres n'en ont généralement que faire. Et ils me regardent comme quelqu'un de responsable et non comme quelque chose produit par des causes biologiques ou génétiques. J'existe libre par le comportement d'autrui à mon égard et le regard qu'il me porte. Mais cette responsabilisation au quotidien risque fort d'être un fardeau. Alors, je m'esquive et plaide les circonstances atténuantes. Au lieu d'assumer mes paroles et mes actes, je dis que je n'y suis pour rien. C'est la faute à mon caractère, à mon enfance perturbée, à ma maladie ou à ma fatigue. Bref, je ne veux plus être quelqu'un de libre et je demande à n'être qu'une chose ou un animal déterminé. Cependant, pour sauvegarder ma dignité d'homme, je peux au contraire revendiquer la responsabilité de mes actes. Je demande à être reconnu comme l'auteur de ce que j'ai fait ou dit. Je vais dès lors devoir répondre de mes actes. Soit je m'en excuse, et peux même tenter de réparer, soit j'insiste et confirme. Attention, il n'y a là rien de banal. Il s'agit d'un séisme existentiel. En effet, mes actes nouveaux, mes excuses, ma réparation, ma confirmation, etc. Mais les actes nouveaux, donc, par lesquels je réponds de mes actes passés, n'ont pas d'autre cause que la revendication de ma liberté. Ces nouveaux actes sont des actes libres, une conquête de ma liberté. Je me fais libre. Cette liberté n'est pas une illusion. Elle se manifeste concrètement dans le changement de mon rapport aux autres. C'est une conquête risquée, mais épanouissante et donatrice de sens, en m'exposant aux autres. Par exemple, devant les assises, l'avocat du criminel plaide les circonstances atténuantes, c'est-à-dire le déterminisme psychologique ou social de son client. Mais le prisonnier politique peut revendiquer au contraire sa liberté, sa responsabilité de ses actes. Sa vie bascule à ce moment-là, si le jury accède à sa demande et le considère comme responsable. Mais il vit intensément sa liberté. Remarquons bien que si je suis seul, tel Robinson sur son île déserte, je ne peux pas répondre de mes actes. Je ne peux pas devenir libre. Autrui est la condition de ma liberté. Dans Vendredi ou les limbes du Pacifique, Michel Tournier insiste bien sur cet aspect, en reprenant le célèbre mythe de Daniel Defoe en 1719. Que Robinson se veuille responsable ou non de ses actes, ça ne change rien à sa vie. Il est de toute façon la conséquence de son naufrage, de ses savoir-faire acquis et de son caractère. Robinson se sent tributaire d'une fatalité et de sa finitude. Il n'est plus sujet responsable. Il se déshumanise et va se rouler dans la boue avec les cochons sauvages. Pour se ressaisir, il se dédouble en jouant deux personnages, le gouverneur de l'île et l'administré. Du coup, il va pouvoir répondre de ses actes par des actes neufs dont le mobile est de s'affirmer auteur de ses actes. Certes, ça ne peut pas durer. Ce n'est qu'une bipolarisation, une bipolarité, une illusion. Heureusement, apparaît Vendredi. Remarquons, au passage, qu'en disant que l'on est libre que parce que responsable, on dit le contraire de Kant, qui explique que le menteur est responsable parce qu'il est libre. Des neuropsies, c'est-à-dire psychologues, psychiatres, psychanalystes, ne manqueront pas de dire que la revendication de sa responsabilité auprès d'autrui est un processus mental sans doute lui aussi déterminé. Ce serait une critique pertinente si je croyais me faire libre par moi-même sans la médiation et l'interpellation d'autrui. En fait, je ne peux répondre de mes actes, me responsabiliser, que par autrui, en m'exposant aux autres. Ce sont ces actes du répondre qui manifestent ma liberté, et non un processus psychique interne. Mais alors, pourquoi les autres souhaite-t-il que je réponde de mes actes? Parce que mes actes passés les ont concernés, dans la famille, le voisinage, l'entreprise, l'association, le positionnement politique, etc. Les autres me demandent des comptes. Je peux fuir cette responsabilisation. Mais si je réponds de mes actes devant autrui, c'est que je me considère libre et aussi responsable des autres qui sont concernés par ce que je fais et par ce que j'ai dit. L'acte de répondre de ses actes devant autrui est absolument liberté. Acte premier d'une série d'actes nouveaux. Mais il n'est pas indépendance à l'égard d'autrui. Il requiert la transcendance d'autrui. Le loup de la fontaine considère l'agneau comme une proie et non comme quelqu'un qui interpelle et devant qui il doit répondre de ses actes. Bref, le loup de la fontaine ne perçoit pas la transcendance d'autrui. L'homme aussi est un animal prédateur, mais le propre de l'homme est qu'il entend intérieurement et originellement l'appel d'une transcendance de l'autre, Dieu. C'est sans doute le sens le plus profond de l'œuvre d'Emmanuel Lévinas, dans son livre principal, Totalité et Infini, en 1963. Et comme dans Éthique et Infini, son livre de 1982. Dans ce dernier, il écrit, je cite, « Il y a dans l'apparition du visage, » il parle du visage d'autrui, « il y a dans l'apparition du visage un commandement. » Moi, j'ai dit une interpellation. Je poursuis la citation de Lévinas. « Je suis celui qui se trouve des ressources pour répondre à l'appel. » Nous venons de le dire, « répondre à ». Dans l'accès au visage, il y a certainement aussi, toujours Lévinas qui parle, un accès à l'idée de Dieu. Fin de citation. Le visage n'est pas un objet. C'est une icône, une diaphanie, une icône de la transcendance divine, que je propose d'appeler Christophanie du visage d'autrui. Alors c'est vrai, Lévinas, de confession juive, n'aurait pas, sans doute, souhaité cette formulation.
C'était Petit philosophe dans le vaste monde, une émission de Bernard Ribal.